7h31, l'actualité économique avec Théo Dumas.
Avec une bonne et une mauvaise nouvelle pour Donald Trump dans les décisions de la Cour suprême. D'un côté, elle lui offre le pouvoir de limoger à sa guise des responsables d'agences fédérales, en l'occurrence une commissaire de la FTC, l'autorité américaine de la concurrence. Mais la Cour suprême a aussi mis la Fed à l'abri, au moins pour le moment. Alors Antoine Hollard depuis Washington, c'est non pour le licenciement de la gouverneure Lisa Cook.
Oui, en fait, les juges estiment que Donald Trump n'a pas de motif valable pour licencier Lisa Cook. Ils insistent aussi sur la nécessité de préserver l'indépendance de la réserve fédérale. Alors, il faut rappeler que ça fait un moment que Donald Trump veut faire le ménage au sein du directoire de la Fed. Il veut mettre en place des fidèles qui seraient à sa botte et qui voteraient en faveur d'une baisse rapide des taux d'intérêt, une baisse que le président réclame à corps et à cri depuis son retour à la Maison-Blanche. C'est pour cette raison que son administration a lancé des poursuites judiciaires contre Lisa Cook. Elle est accusée de fraude aux prêts immobiliers. Pour beaucoup, ces accusations ressemblent à un prétexte pour l'évincer, elle qui avait été à l'époque nommée par Joe Biden. Cette manœuvre, en tout cas, n'a pas fonctionné. Lisa Cook, pour le moment, peut garder son poste. Mais attention, les juges de la Cour suprême ne se sont pas prononcés sur le fond. En théorie, si Donald Trump trouve un motif valable, il peut encore espérer la mettre à la porte. Trump, en tout cas, a bien compris que la bataille n'est pas totalement terminée. Il annonce sur son réseau social qu'il va lancer une nouvelle action immédiate contre Lisa Cook, sans préciser de quoi il s'agit. En attendant, la gouverneure, elle, se félicite de la décision de la Cour suprême. Une décision qui, dit-elle, va renforcer l'indépendance de la Fed.
Merci Antoine Hollard à la Maison-Blanche, où Donald Trump a confirmé aussi que des discussions auront lieu aujourd'hui à Doha, au Qatar, entre Américains et Iraniens. Le président américain qui se félicite à cette occasion des prix du pétrole, on l'écoute.
Nous avons atteint 69$ aujourd'hui. C'était plus élevé que ça avant le combat pour la dénucléarisation de l'Iran que nous menons et sur lequel nous faisons du très bon travail. Il y aura une réunion à ce sujet demain à Doha et ils vont au Qatar. Je pense qu'ils sont déjà partis ou ils sont sur le point de partir, donc nous verrons comment cela se passe. Mais nous faisons du très bon travail sur ce front. La réunion de Doha sera peut-être importante, peut-être pas.
Voilà, une réunion importante ou pas, d'après son administration. En tout cas, il s'agit aujourd'hui de réunions de haut niveau avec les Iraniens qui, eux, confirment se rendre à Doha, mais pour des rencontres techniques, sans négociation directe. Téhéran, qui a par ailleurs répondu à la proposition française de déminage du détroit d'Ormuz en appelant Paris à ne pas compliquer davantage la situation. 8h34 et dans moins de 24 heures en France, c'est l'entrée en vigueur du congé naissance. Un ou deux mois de plus pour chaque parent, indemnisé par la Sécurité sociale, de quoi remplacer efficacement le congé parental, estime Aurore Berger, la ministre, ce matin sur BFM Business.
Là, l'objectif, c'est vraiment donner plus de liberté aux parents, donner plus d'égalité aussi entre les parents, et puis dire là encore aux recruteurs qui peuvent hésiter parfois un CV égal, le simple fait d'être mère ou d'être en âge d'être mère peut quand même créer un doute pour un recruteur qui va dire mais finalement, c'est-à-dire qu'elle va s'arrêter, elle va avoir un enfant, elle va prendre des congés, si l'enfant est malade, ben en fait, aujourd'hui avec un congé paternité de 28 jours et un congé de naissance de 2 mois supplémentaires, ça veut dire aussi que si vous recrutez un jeune homme qui a envie d'avoir, ou un homme qui a envie d'avoir un enfant, eh bien finalement, il y aura ce rôle de partage.
Entrée en vigueur aussi demain du droit de douane européen sur les petits colis chinois. 3€ par paquet, c'est pourquoi le gouvernement français annonce ce matin suspendre sa propre taxe de 2€, qui n'est donc plus justifiée dans le marché unique et qui était par ailleurs largement contournée. Et puis les précisions du ministre sur la prolongation des soldes, ce sera 7 jours de plus jusqu'au 28 juillet pour tenter de compenser la faible fréquentation des magasins pendant la canicule.
L'actualité internationale avec Annalisa Capellini dans la presse américaine. On revient sur ce camouflet infligé à Donald Trump au sujet du limogeage de Lisa Cook.
Oui, il y a des avis différents, à commencer par le Wall Street Journal, selon lequel il y a un seul grand gagnant dans l'affaire Lisa Cook, et c'est le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh. La décision de la Cour suprême donne à Kevin Warsh une plus grande marge de manœuvre et une plus grande indépendance vis-à-vis du président, qui ne peut donc pas limoger Lisa Cook. Le New York Times, en revanche, pense l'inverse. Cette décision ne signifie pas que la Fed est moins vulnérable face à Donald Trump. Le président est toujours déterminé à se débarrasser de Lisa Cook. Et selon Donald Trump, nous dit le New York Times, la décision rendue par la Cour suprême est simplement un revers juridique pour Donald Trump, qui pourrait donc revenir à la charge contre Lisa Cook et donc contre tous les gouverneurs de la Fed qui ne lui conviendraient pas dans le futur.
La presse internationale qui revient aussi sur les difficultés de la Russie que Vladimir Poutine a lui-même reconnues.
Et oui, parce qu'au-delà de la narration sur le succès de l'opération militaire spéciale, ben, il y a la vraie vie sur le terrain avec une ligne de front qui ne bouge plus vraiment depuis quelques mois. C'est l'envers du décor de l'armée de Poutine selon Le Temps, le journal suisse qui le place en une. Le Temps qui commence à raconter que le Kremlin reconnaît les critiques des militaires et de leurs familles et qu'une plateforme sur Internet a été ouverte pour recueillir les plaintes des militaires et de leurs familles. Et un média russe a pu s'infiltrer dans la plateforme, lire ces plaintes et donc voir une réalité très différente par rapport à celle décrite par le pouvoir russe, avec une population qui est quand même très inquiète à cause du conflit. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que Vladimir Poutine se rapproche de son parti, c'est le parti au pouvoir bien sûr. C'est à la une du Financial Times ce matin. Le Financial Times le rappelle, Vladimir Poutine n'est pas membre en fait du principal parti au pouvoir russe. Et là, il commence à faire un pivot dans sa stratégie parce que pour la première fois depuis 2007, il s'affiche clairement pour le parti Russie Unie, le parti du président. C'est le signe, selon le FT, d'une certaine inquiétude au Kremlin, surtout en vue des élections qui sont prévues au mois de septembre 2026.
Merci beaucoup, Annalisa Capellini, La Bourse. Étienne Brack, qu'est-ce qu'on attend à 20 minutes de l'ouverture ?
Très légère hausse pour cette dernière séance du mois, du trimestre, avec pour l'instant un trimestre en Asie qui a été spectaculaire. Là, c'est un petit peu la clôture sur les différents indices asiatiques. Et quand vous regardez le MSCI Asia, eh bien, c'est le meilleur trimestre depuis 2009, avec quand même une progression de 30% au deuxième trimestre pour cet indice large asiatique, avec, on en parlera tout à l'heure dans l'émission, Franck Benzimra nous accompagnera depuis Hong Kong, une performance spectaculaire bien sûr du Kospi qui a fait x2 depuis le début de l'année, et puis à l'inverse typiquement l'Indonésie qui perd 30% depuis le début de l'année, c'est le pire semestre pour l'Indonésie. La Chine au milieu de tout ça, bah, c'est assez amusant de voir que Shenzhen s'en sort très bien, puis à l'inverse Shanghai ne fait pas grand chose, donc c'est vraiment un trimestre très instructif, où on voit également l'once d'or passer sous les 4 000 $, l'once d'or qui a quand même perdu quasiment 25-30% depuis ses plus hauts historiques du début du mois, avec une once d'or qui est aujourd'hui totalement délaissée. On aurait pu croire qu'elle aurait été recherchée avec le conflit au Moyen-Orient, mais ça n'a pas du tout été le cas parce que le marché pense que la Fed va remonter ses taux. Et donc, quand vous pensez qu'il y a de l'inflation et que les banques centrales relèvent leurs taux, et bien vous vous délaissez de l'or.
À 9h, il faudra surveiller Abivax. Oui. Le titre prend actuellement combien en après-marché ?
25% en pré-ouverture, pour la simple et bonne raison que hier, Abivax, qui est une biotech, a mis à jour son étude de phase 3. Donc, oui. C'est la dernière étude avant la mise sur le marché, la demande de mise sur le marché d'un traitement. Et donc là, aujourd'hui, vous avez une mise à jour de cette étude de phase 3 qui montre des résultats encourageants pour la rectocolite hémorragique. Ce sont les maladies inflammatoires de l'intestin.
Alors justement, on est en ligne avec Marc de Garidel, le directeur général d'Abivax. Bonjour Marc de Garidel, merci d'être avec nous. Cette publication d'hier encourageante, est-ce que ça veut dire qu'on se rapproche de la commercialisation ?
Bonjour, merci de m'inviter. Alors oui, effectivement, cette dernière partie d'étude est très encourageante et va nous permettre de déposer le dossier d'enregistrement aux États-Unis d'ici la fin de l'année.
Donc ça se rapproche clairement, là, c'est la dernière phase.
C'est la dernière phase, et puis la commercialisation devrait être au dernier trimestre 2027.
Ah oui, donc on y arrive. Le titre prenait en après-marché, disait Étienne, plus de 25%. Vous avez le nez collé sur le cours de bourse ou pas ?
Non, ce qui nous intéresse, c'est d'offrir un produit à des patients qui sont atteints de ces maladies, qui vivent une vie compliquée. Et les résultats d'hier, en particulier pour les patients qui sont avancés, montre que ce produit est une vraie nouvelle alternative à tout ce qui existe. Et si vous regardez des résultats cliniques, notamment sur l'endoscopie, la rémission en endoscopie, nous faisons deux fois mieux que le produit le plus respecté aujourd'hui dans ce domaine.
Vous nous rappelez justement la rectocolite hémorragique, ça concerne combien de patients et c'est quelle profondeur de marché ?
Alors, c'est un marché qui est considérable. En France, les chiffres sont entre 150 000 à 200 000 patients. On pense que dans le monde, c'est plutôt entre 2 et 3 millions. Donc c'est une maladie qui se développe encore assez rapidement, notamment liée à la nourriture, que la nourriture industrielle et à l'inflammation que ça crée dans l'intestin.
Étienne.
Au mois de janvier, il y avait des rumeurs de presse qui évoquaient des discussions avec l'américain Eli Lilly, marque de Gary Dell. Est-ce que aujourd'hui, avec cette étude de phase 3 et cette mise sur le marché potentielle en 2027, vous aurez besoin de vous rapprocher d'un grand laboratoire afin de pouvoir commercialiser ce traitement, sachant que, comme vous l'avez souligné, c'est un traitement qui est nettement plus performant que les autres traitements qui existent sur le marché?
Écoutez, je ne fais pas de commentaires aujourd'hui sur les questions qui sont liées à des rumeurs. Notre but, c'est avant tout, encore une fois, d'avancer le produit et d'essayer de l'amener justement à l'enregistrement. Après, ce que feront les grands groupes, c'est leur responsabilité. Nous, on avance et nous sommes encore une fois très heureux d'avoir un produit comme celui-là dans nos mains. Et je tiens à remercier encore une fois tout le staff médical, les équipes Abivax pour mener ce développement, qui est une des plus grandes études de phase 3 jamais faites au monde dans la rectocolite hémorragique.
Oui, mais la question, évidemment, Marc de Gaël, c'est est-ce qu'on peut rester seul hein, quand on avance aussi vite? C'est une question légitime.
C'est une question légitime, le temps le dira. Voilà, nous avançons.
C'est une question légitime, mais il n'y aura pas de réponse. Merci beaucoup Marc de Garrigdel d'avoir été avec nous ce matin. On suivra bien sûr ce titre à partir de 9h pour voir ce qu'il donne à l'ouverture des marchés européens. Il est 8h42, dans un instant c'est le club de la bourse. Vont nous rejoindre, Étienne, est-ce que vous avez des invités? J'ai oublié Jean-François
Robin de Natixis et Claudia Panseri de UBS.
Vous ne bougez pas, à tout de suite.
Good Morning Market, le club de la bourse.
Il est 8h44 dans le club de la bourse. Aujourd'hui, on est avec Jean-François Robin. Bonjour, directeur de la recherche de Natixis CIB et Claudia Panseri. Bonjour, vous êtes responsable de la stratégie d'investissement de la banque privée UBS France. Je commence avec nos affaires de banque centrale. On parlera de la BCE dans un instant, mais on a donc Lisa Cook qui, à la Fed, va pouvoir conserver son poste. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Jean-François Robin, que la Fed, c'est la seule institution à laquelle Donald Trump ne peut pas toucher?
Sur les agences, oui, c'est ce qu'a dit la Cour suprême. C'est qu'il a le droit de virer qui veut, donc la SEC, par exemple, l'équivalent de notre commission bancaire d'opérations de bourse, comme on disait en France. Donc, il peut virer un peu tout le monde, sauf on touche pas la Fed, qui est l'institution indépendante par définition. Donc, Trump n'aura pas cette fameuse super majorité qu'il aurait pu avoir et obtenir peut-être des baisses de taux plus rapides. On sait que Kevin Warsh n'a pas donné son opinion sur lors du dernier meeting sur une éventuelle baisse des taux. Et évidemment, s'il remplaçait Lisa Cook par quelqu'un de beaucoup plus pro-Trump, entre guillemets, on peut dire, on aurait peut-être eu un peu plus de pression à la baisse des taux, alors qu'aujourd'hui, la grande majorité du FOMC indépendant pense plutôt qu'il faudra une hausse des taux aux États-Unis puisqu'on a une inflation qui va plutôt vers les 4% que vers les 2%. Donc évidemment, c'est pas une baisse des taux qu'il faut aux États-Unis et Lisa Cook va rester indépendante. Et ce que dit la Cour suprême, c'est que quand bien même elle aurait des problèmes judiciaires, parce que Trump a dit j'ai quand même essayé d'aller au bout de lui chercher des noises, la Cour suprême dit à partir du moment où ça n'empêcherait pas son indépendance dans son job, ça ne change rien.
Claudia Panseri, vous dites que c'est plutôt une bonne nouvelle de dire qu'il n'y a que la Fed à laquelle on ne peut pas toucher?
Globalement, oui, parce que c'est quand même la banque centrale de référence à niveau mondial et les taux d'intérêt américains fixent un peu tout, le taux d'échange aussi. Beaucoup des taux d'échange sont mesurés par rapport au dollar, donc le fait d'avoir une banque centrale indépendante permet d'avoir un système des marchés financiers qui est plus stable et donc avec une visibilité qui est certaine.
Pendant ce temps-là, Étienne Brac, on a Christine Lagarde qui, à Sintra, s'est justifiée de sa hausse des taux.
Sintra, Portugal, c'était hier le coup d'envoi de ce grand symposium où d'ailleurs Kevin Warsh sera attendu demain. Et vous avez hier soir Christine Lagarde qui, dans son discours d'introduction, a dit « certains nous ont reproché d'avoir monté les taux au mois de juin en disant que c'était une hausse de précaution, mais pas du tout. Regardez les anticipations d'inflation. Depuis qu'on a remonté les taux, le marché voit moins d'inflation. » En fait, c'est vrai que la BCE a remonté ses taux le 11 juin. Et puis le 15 juin, vous avez eu un accord de cessez-le-feu. Et donc forcément, les cours du pétrole sont remontés. Et puis là, c'est intéressant.
Ont baissé.
Ont baissé. Lapsus, 8h45. Là, il y a deux minutes, l'INSEE a mis à jour ses prévisions d'inflation pour le mois de juin.
Et vous avez
1,8%. C'est largement en dessous des attentes. Pourquoi? Parce que là aussi, les cours du pétrole ont baissé. Et donc, ça a eu un impact sur les prix à la pompe.
Claudia Panseri, comment vous regardez ça? C'était un coup pour rien, cette hausse des taux?
Alors, je trouve qu'il y a plusieurs choses intéressantes. La première, c'est comme souligné par Madame Lagarde dans le discours à Sintra, l'économie européenne est beaucoup plus résiliente par rapport au taux vis-à-vis de ce qu'on a pu vivre dans le passé. Dans le passé, l'économie était complètement intermédiée par le secteur bancaire et donc toute remontée des taux avait un impact sur la croissance. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. On sait exactement qu'une petite remontée des taux ou deux remontées des taux ne vont pas effondrer l'économie. Il y a un deuxième facteur, la Banque Centrale Européenne a un seul mandat, la stabilité des prix. Quand vous avez une croissance qui ralentit mais qui ne s'effondre pas et l'inflation est à des niveaux supérieurs au target de la Banque Centrale des 2%, le fait de remonter les taux ne me paraît pas complètement hors sens. Donc, c'est vrai, beaucoup de gens sont surpris par cette remontée des taux, mais encore, il y a une probabilité de voir une hausse des taux à venir, très probablement le mois de septembre, et j'ai l'impression que c'est ce qui est indiqué dans les différents discours des différents gouverneurs de la Banque européenne. Donc, il faut s'attendre très probablement à une autre hausse des taux.
Pourtant, il y a quelques jours, elle avait mesuré un peu ses propos, Étienne.
Oui, lundi dernier, à la Commission européenne, et puis deux jours après, Isabel Schnabel a dit non, pas du tout, il faut continuer. Et là, quand vous regardez les anticipations, du coup, c'est pas très clair pour l'instant.
Exactement.
Pour le mois de septembre.
Jean-François Robin, c'était un coup pour rien ou pas?
Alors, moi, je pense que dans les marchés, on parle de porte de saloon, hein, c'est-à-dire que vous la prenez à l'aller, puis vous la prenez en retour. Donc là, je pense qu'ils ont corrigé une erreur de politique monétaire en 2022 de remonter les taux beaucoup trop tard lors de la crise énergétique liée à l'invasion de l'Ukraine. Et là, ils étaient quand même très, évidemment, tous choqués. J'ai déjeuné récemment avec Philippe Laine, qu'on avait dans nos locaux chez Natixis vendredi dernier. Ils étaient très traumatisés par le fait d'avoir laissé l'inflation, vous le disiez très justement, leur job, c'est d'avoir un seul job, c'est de l'inflation à 2%. Quand elle monte à 10,6 en octobre 2022, vous ne pouvez pas dire que vous avez fait votre job. Donc là, le premier prémisse d'une hausse des taux totalement liée à l'énergie, hein. Encore une fois, c'est bien la définition d'un choc d'offre énergétique, c'est bien ce qui s'est passé en Iran. Là-dessus, normalement, une banque centrale, elle n'a aucun rôle à jouer. Donc là, ils montent les taux de façon... Moi, je trouve quand même un petit peu... on parlait un peu de preventive hike, ouais. Hein, quelque part. Et moi, je pense que dit que ce n'est pas une hausse des taux assurantielle, quelque part, au cas où. Je pense que ça ressemble quand même beaucoup à ça. Je suis assez d'accord avec la remarque qui a été faite par Étienne, qui est de dire, attention, ils ont monté les taux au moment, juste avant où ça a complètement baissé, où déjà on parlait un peu de ça. Aujourd'hui, on pourra parler des prix de l'énergie, mais enfin, tous les prix sont en train de se réécrouler. Hein, on parle des engrais, on parle évidemment du pétrole.
Oui, ça a beaucoup rebaissé sur les engrais.
15 dollars, le gaz qui est revenu à peu près à la normale. Et vous avez les prix des engrais qui étaient les fameux trucs qui venaient aussi du Golfe. Tout d'un coup, on a découvert ça, qu'il y avait 30% de l'urée qui venait du Golfe. Bah, les prix de l'urée aujourd'hui...
Hein, parce que la demande a beaucoup baissé. Hein.
Oui, la demande a baissé, mais justement, parce que mon point sur l'énergie comme sur l'urée, c'est que vous avez quand même un choc sur l'énergie mondiale, donc la demande baisse. Par contre, l'offre surabondante revient. À partir du moment où le détroit d'Hormuz va se réouvrir, vous allez avoir une espèce de réouverture de tous ces flux. Et typiquement, tous les bateaux qui étaient coincés, il y en avait 600 dans le détroit, plein de pétrole.
Et donc vous dites, à un moment donné, le pétrole, c'est pas 72, il va tomber à 50.
Alors moi, je challenge, vous savez qu'on est dans les tops des classements sur les prévisions de pétrole au niveau mondial, et mon géologue, il me dit, non, on se détend, Jean-François, ça ne baissera pas en dessous de 70-80, parce que tout le monde va vouloir reconstituer ses réserves, etc. Mmh. Mais moi, j'ai quand même un peu un challenge. À mon avis, le risque du pétrole en 2027, c'est plutôt 50 que 100. On était dans un monde de surproduction de pétrole et de gaz avant la guerre en Iran, on l'est encore plus après, puisque vous avez non seulement des nouveaux producteurs qui sont arrivés, je pense typiquement aux Émirats qui ont dit « je sors de l'OPEP et j'ai passé de 3,4 millions à 5 », vous avez la Libye qui dit « je suis déjà au plus haut de ma production depuis 2013 », et en plus de ça, vous rajoutez potentiellement l'Iran, à qui on va peut-être filer 300 milliards pour qu'ils augmentent leurs infrastructures pétrolières, et Trump vient d'annoncer qu'ils avaient le droit d'exporter en dollars. Tout ça va faire quand même une surproduction de pétrole, ouais. À court terme, parce que ça va sortir du
golfe. Alors que la demande va peut-être baisser.
Alors que la demande baisse parce que la croissance mondiale ralentit. Et en plus, vous avez cette électrification phénoménale. La Chine consomme beaucoup moins de pétrole.
Ils ont exporté beaucoup moins. Claudia, vous n'êtes pas complètement d'accord sur la Banque Centrale Européenne.
Je ne suis pas d'accord sur l'affirmation que la Banque Centrale a fait une erreur de politique monétaire. Car c'est vrai que la Banque Centrale, via le mouvement des taux d'intérêt, n'impacte pas l'offre. Donc là, on a un choc d'offre. Mais un choc d'offre, un impact sur les attentes d'inflation qui vont se répercuter sur les prix des biens de consommation. Donc, le fait de remonter les taux, c'est une manière pour pouvoir réduire un choc ou une envolée des attentes d'inflation qui pourrait avoir un impact sur un deuxième temps sur les prix. Donc, je pense que la Banque centrale, oui, peut-être est allée très rapidement parce qu'il y avait déjà des négociations en cours, mais elle a fait encore une fois son travail. La stabilité des prix reste très importante. Et puis là, aujourd'hui, on regarde l'inflation en France, qui en général, c'est l'inflation plus basse de la zone euro parce qu'on bénéficie des différentes sources d'énergie. Mais l'inflation en dehors de la France est en général plus élevée. Donc, la Banque centrale a plusieurs pays sur lesquels il faut se focaliser. Et donc, je pense que le fait d'avoir remonté les taux, c'était exactement ce qu'il fallait faire au bon moment.
En Espagne, c'est pas un 8, l'inflation. C'est au-delà, hein, Jean-François. Alors, oui, certes, la croissance...
Pays qui va peut-être faire 3% de croissance, nous annonce le gouvernement espagnol pour des raisons. Hein, il parle de 2,6 désormais, nous on est un peu plus prudent. Mais juste pour revenir là-dessus, ce qui est l'énorme différence 2022 et aujourd'hui, justement, je pense que ce qu'on a vu avant la décision de la BCE, c'était que les anticipations d'inflation commençaient déjà à baisser, avec notamment des anticipations du prix du pétrole qui commençaient à intégrer des idées de cesser le feu. Mais surtout l'énorme différence, c'est qu'en 2022, vous aviez quasiment 3% de croissance, on était encore dans le rebond post-Covid, et vous aviez 5 à 6% de hausse salariale un peu partout en Allemagne. Aujourd'hui, c'est quoi la situation ?
Avec une reconstitution de la demande, quoi.
Voilà. C'est ça. Aujourd'hui, vous n'avez pas du tout ce choc de demande positif qui s'ajoutait au choc d'offres énergétiques lié à l'Ukraine. Là, vous aviez des salaires qui montaient en 2022 de 5 à 6%. Aujourd'hui, les salaires en zone euro, ils baissent. Ils baissent pourquoi ? Parce que vous avez le chômage qui monte en France, qui monte en Allemagne, et donc vous avez plutôt des anticipations salariales. Donc il n'y a pas du tout d'effet de second tour qui ont un peu justifié cette hausse des taux de la
Claudia. BCE. Ouais, là aussi, je ne suis pas trop d'accord, je suis désolée.
Mais ce n'est pas grave.
Mais en fait, ce qui se passe...
Deux pour
c'est
faire
que...
marcher.
Mais oui, non, en fait, c'est le fait de voir que les salaires négociés sont quand même indexés à l'inflation et que donc, si l'inflation répare à la hausse, à la place d'avoir des salaires négociés qui rebaissent, ils remontent. Donc, encore une fois, je pense que 25 points base de hausse des taux n'a aucun impact sur la croissance macroéconomique. C'est juste pour garder les attentes d'inflation au niveau, je dirais, à un niveau suffisamment bas pour contenir l'envolée de l'inflation a posteriori. Et surtout, je pense que compte tenu qu'en 2022, la Banque centrale avait été largement critiquée par avoir été très en retard dans le renforcement des politiques monétaires, aujourd'hui, réagit un peu en avant et peut-être maintenant vont faire une pause. Et encore une fois, vous le disiez tout à l'heure, le prix du pétrole ne va pas retomber à $50 le baril non plus. Donc, il y a toute une période pendant laquelle le prix du baril du pétrole peut rester autour des 80. Nous, dans nos estimations pour cette année, on a 80 avant 85 avant qu'il rebaisse l'année prochaine. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir quand même un effet du prix du pétrole qui reste dans l'inflation jusqu'au mois de septembre-octobre. Donc, c'est là justifie une hausse des taux.
Moi, je suis d'accord que 25 ne change pas grand-chose, mais si on commence à dire c'est 25, mais en fait, c'est 50 en septembre, si vous êtes une petite PME, vos coûts de refinancement, c'est quand même un demi-point de plus.
Il nous reste 30 secondes. Étienne, on a donc à digérer ces chiffres de l'inflation qui rebaissent donc en juin 1,8%.
Qui ralentissent.
Sur un an, qui ralentissent absolument après 2,4%. En mai, qu'est-ce qu'on regarde à l'ouverture ?
Abivax, bien sûr. En attendant, le CAC 40 est en hausse de 0,3% en préouverture, plus 0,6% pour le DAX à Francfort pour cette dernière séance du mois, qui fut quand même un bon mois pour l'Europe, qui fait mieux que les États-Unis. Ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé.
On a essayé de poursuivre Marc de Garidel tout à l'heure sur Abivax pour savoir s'il allait continuer tout seul ou vendre la boîte. On n'a pas réussi, mais en tout cas, il faudra suivre l'entreprise, évidemment, à l'ouverture dans 5 minutes. Good morning, Market. Merci à tous les deux d'être venus dans la matinale de l'économie. On se retrouve demain, 6h-9h. Bonne journée.
BFM Business présente Good Morning Market. Etienne Moi.
8h58, on est ensemble jusqu'à 9h30 pour Good Morning Market. Dans un instant, l'ouverture des marchés européens. Légère hausse attendue sur les grands indices. Le CAC 40 est en légère progression de 0,3% quelques secondes avant le coup d'envoi de cette dernière séance du mois, du trimestre et également du semestre, avec un mois de juin qui est plutôt favorable pour les indices européens, alors que du côté de Wall Street, on a une petite pause. En tout cas, hier soir, le Nasdaq cédait 4% sur l'ensemble du mois. Mois compliqué pour l'once d'or, hein, c'est la plus forte baisse mensuelle, moins 13% quand même pour l'once d'or en ce mois de juin. Plus forte baisse depuis 2008. L'once d'or qui est encore ce matin sous les $4,000, moins 0,3%. Nous parlerons de tout cela dans cette prochaine demi-heure. Nous parlerons bien sûr des indices asiatiques avec le MSCI Asia qui a quand même gagné 30% lors du deuxième trimestre, c'est-à-dire le meilleur trimestre depuis 2009. Franck Benzimra nous attend depuis Hong Kong, responsable de la stratégie action en Asie chez Société Générale CIB. Marie-Sophie Pastan, responsable de la gestion indicielle chez BNP Asset Management, reviendra avec nous pour faire un premier bilan des ETF liés à la défense. Ça fait un peu plus d'un an qu'ils ont été lancés en Europe et après une période très faste, très forte sur l'ensemble du segment de la défense, c'est un petit peu plus compliqué, même si on le verra, on a quand même des lueurs d'espoir sur cette classe d'actifs. Et puis en dernière partie d'émission, Romain Daubry nous aidera à regarder un petit peu ce qui se passe sur les indices d'un point de vue technique avec des supports importants qu'il faut surveiller, notamment aux États-Unis. En attendant, il est pile 9h et c'est l'information économique qui vous est livrée par Léo Dumas.
Good Morning Market, le journal.
Et à la une, c'est l'inflation qui s'atténue en France. Elle revient à 1,8% sur un an au mois de juin, après les 2,4 du mois de mai, sans surprise, sur fond de baisse des prix de l'énergie, nous dit l'INSEE ce matin, qui note également un ralentissement des prix des services et de l'alimentation dans cette première estimation. Pour le mois de mai aussi, la consommation des ménages a rebondi, indique toujours l'INSEE, plus 0,5% sur un mois, plus 0,3% sur un an, tiré principalement par les dépenses en énergie, gaz et électricité. Alors que les dépenses alimentaires et les biens fabriqués sont restés stables ce mois-là. La taxe petit colis chinois à 2 euros sera suspendue dans 24 heures, annonce du gouvernement ce matin, pour laisser la place aux droits de douane européens qui entrent en vigueur. Là, c'est 3 euros sur chaque paquet. Mais la taxe de 2 euros ne disparaît pas totalement, en fait. C'est une simple suspension tactique, prévient le ministre du Commerce Serge Papin sur TF1.
Qui est la taxe de 2 euros à partir du mois de novembre.
La taxe complémentaire de 2 euros à partir de
la taxe dite de gestion à partir du mois de novembre. Et là, pourquoi on suspend ? Pour mieux contrôler les choses et les produits qui vont arriver en France, puis aussi, entre guillemets, profiter de la taxe douanière, parce que si ça vient en France, c'est du budget qui ira, c'est une taxe qui viendra dans notre pays et qui n'ira pas dans un autre pays.
Voilà, Serge Papin qui dévoile aussi une nouvelle date pour la fin des soldes. Ce sera le 28 juillet, 7 jours plus tard que prévu, pour tenter de compenser la faible fréquentation dans les magasins pendant la canicule.
Merci beaucoup Léo Dumas. Dans un instant, vous saurez tout sur la séance et l'ouverture de la Bourse de Paris, juste avant un petit mot des experts que vous retrouvez avec Raphaël Legendre à 9h30. Et donc l'inflation qui ralentit au mois de juin.
Ouais, une bonne nouvelle Étienne, absolument. On va décrypter ces derniers chiffres de l'INSEE ensemble. Une inflation en baisse, une consommation en hausse. Est-ce que tout va mieux pour l'économie française ? Ce sera le premier thème des débats. On va revenir par ailleurs sur les propositions des différents candidats à la présidentielle face à la canicule qui a écrasé la France la semaine dernière. Congé climatique, éco-région, plan clim, quelle proposition des candidats. On parlera aussi de ce méga plan d'investissement de la Corée du Sud dans l'intelligence artificielle avec près de 1000 milliards de dollars. Où en est l'Europe ? Que peut faire l'Europe face à cette déferlante coréenne ? On dira un mot aussi de la rencontre du ministre chinois du commerce extérieur avec le commissaire européen Sefcovic, et puis on terminera sur les fluctuations de l'or et du Bitcoin. Pourquoi ça coince ? La réponse des experts à 9h30 avec Christian Poyot, cofondateur et CEO de Micropole, Céline Antomin, économiste à l'OFCE, et Ludovic de Sauté, directeur délégué de la Tribune.
9h02, le CAC 40 progresse de 0,27% à la porte des 8400 points. 8388 points ce matin à l'ouverture grâce à ST Microelectronics, Bureau Veritas ou encore Schneider Electric. Ce sont les trois plus fortes hausses ce matin à l'ouverture. 283 euros pour ce titre Schneider. À l'inverse, le secteur du luxe fait une petite pause. LVMH, L'Oréal ou Kering sont les plus fortes baisses ce matin. L'once d'or est donc toujours sur ses plus bas annuels à 4000 $. Le pétrole, 73 $, moins 0,6%. 70 $ pour le WTI. L'euro dollar tente de se stabiliser à la porte des 1,14 0,4. Et puis sur le front des taux, eh bien vous avez un marché obligataire qui là aussi se stabilise. C'est bien sûr une semaine importante, on en parlait en préambule avec le symposium de Sintra et Kevin Warch qui est attendu au tournant demain au Portugal. C'est une séance importante aujourd'hui pour les biotech avec donc Abivax qui est pour l'instant réservé. Le titre est attendu en très forte hausse après donc la publication de ses résultats de phase 3. Et puis à l'inverse, c'est beaucoup plus compliqué pour DBV Technologies qui dégringole de près de 7% à 2,67 €. Et pour cause, la biotech décale son dossier pour son patch pour l'arachide, anti-arachide pour les enfants. Et donc forcément, quand vous avez une biotech qui reporte une nouvelle fois, en plus c'est pas la première fois pour DBV, sa demande de mise sur le marché auprès de la FDA, du gendarme de la santé aux États-Unis, eh bien c'est mal accueilli par le marché. Et ce titre donc qui recule quasiment
quasiment 7%. Très courte pause, on se retrouve dans un instant pour parler des marchés asiatiques avec Franck Benzimra qui nous attend depuis Hong Kong, depuis Société Générale, pour revenir sur la très belle performance des indices asiatiques sur l'ensemble du mois, du trimestre, voire même du semestre. C'est un trimestre historique, notamment pour le MSCI Asia, meilleur trimestre depuis 2009. Pourquoi ? Vous saurez tout dans un instant.
Good Morning Market sur BFM Business. L'économie est une science qui, pour beaucoup, semble compliquée.
On a une inflation en France qui est à quoi ? 0,8 ? 0,79 ?
Avec des experts qui parlent trop vite.
Vous parlez vite, hein, quand même.
Je sais, tout me le reprochons.
Bonne nouvelle, sur BFM Business, on parle d'argent, de travail, d'immobilier.
Franchement, faut pas avoir fait maths sup pour comprendre que quand les taux sont bas, les prix sont hauts.
Marché, pouvoir d'achat, innovation.
Moi, je voudrais qu'on respecte le marché qui doit évoluer comme il le souhaite.
On décrypte tout avec des mots simples et souvent avec humour.
La bonne musique, c'est celle qui vous fait bouger vos petites fesses dans votre cuisine.
C'est une bonne définition.
C'est ma définition personnelle.
L'économie comme vous ne l'avez jamais entendue.
Non, jamais. Moi, je fais jamais ça. Je provoque personne.
Clair, utile et carrément sympa.
Mais la campagne présidentielle est lancée.
BFM Business, première sur l'écho.
On va rembobiner, on va... Ah non, on peut pas rembobiner, on est en direct. Zut. Bon, enfin, c'est pas grave.
Partout en France, écoutez BFM Business à la radio. À Angers, 107.2.
Aujourd'hui, personne ne peut vous dire combien on a de normes parce que ça coûte aux entreprises des sommes folles.
À Bastia, 103.4.
Et moi, je rêve dans mon entreprise de m'affranchir d'un certain nombre de règles qui sont stupides.
À Chambéry, 88.4.
Et mon exemple parfait, c'est Notre-Dame. On a reconstruit Notre-Dame en 5 ans.
À Courchevel, 94.9.
Parce qu'il y a eu une centralisation des décisions, parce que le président de la République était derrière et qui disait « toi tu fais ci et toi tu fais ça » et que lui l'a fait et l'autre l'a fait aussi.
À Cannes, 104.4.
Ça a été simple, mais parce qu'on s'est affranchi d'un certain nombre de règles.
À Brest, 107.3.
Mais j'aimerais qu'on puisse nous dire combien de normes il y a et qu'on puisse vérifier que ces normes diminuent et que les normes nuisibles sont éjectées.
À Limoges, 94.7. À Bordeaux, 107.3. Découvrez toutes les fréquences de BFM Business sur bfmbusiness.com.
BFM Business, le média référent de l'actualité économique. BFM Business, premier sur l'écho. BFM Business présente Good Morning Market. Etienne Braque.
C'est parti pour Good Morning Market et donc le CAC 40 qui progresse de 0,4%, 0,8% de progression pour l'Eurostoxx 50 qui se rapproche de son record historique à 6278 points. La séance en Asie est terminée pour bon nombre d'indices et c'est l'occasion de faire un point sur la très belle performance de ces dernières semaines avec Franck Benzimra ce matin, responsable de la stratégie action en Asie chez Société Générale CIB. Bonjour Franck Benzimra, performance plus qu'honorable. Bonjour. Pour le Kospi à Séoul, x2, Taïwan plus 53% depuis le début de l'année, hein. Nikkei plus 40%. On fera un focus dans un instant sur les indices chinois, mais alors d'un côté vous avez des indices qui ont explosé à Taïwan, à Séoul, et puis de l'autre côté, des indices qui ont dégringolé du côté de l'Indonésie, et puis la bourse indienne, hein, le Nifty également, qui est en très forte baisse. C'est vrai qu'on est sur un premier semestre qui est très instructif, Franck Benzimra.
Oui, on a un premier semestre hein, qui est extrêmement polarisé, hein, comme vous l'avez dit. Hein, vous avez trois marchés, Corée, Taïwan, Japon, hein, qui expliquent plus que 100% de la hausse du marché depuis le début de l'année, qui partagent en commun le fait d'avoir une très forte composante en semi-conducteurs, donc extrêmement forte pour la Corée, mais également un petit peu moins, mais quand même très significatif hein, pour le Japon. Et puis, ce sont également des économies qui finalement ont été relativement peu vulnérables à la crise dans le Moyen-Orient, à la différence d'autres économies dans la région, notamment dans le sud de l'Asie, qui ont été beaucoup plus vulnérables en termes de hausse de prix du prix du baril.
Le MSCI Asia a quand même enregistré un gain de 30% là au deuxième trimestre. C'est le meilleur trimestre depuis 2009. Et en fait, la question qui peut se poser, c'est est-ce que c'est l'heure de la rotation ? Alors, on se la pose tous les jours ou presque sur ce plateau, sur les grands indices mondiaux. Mais là, sur la partie asiatique, la question se pose, avec, vous venez de le citer, quand même des indices qui font des grands écarts spectaculaires.
Oui, alors la réponse courte que je ferai, c'est une rotation très très graduelle. Et en fait, quand vous regardez, notamment depuis le 1er avril et la hausse très très forte qu'on a eue, notamment en Corée, on a une hausse qui est de plus en plus drivée par des investisseurs individuels. Avec un niveau de levier qui devient très important. On a vu notamment en Corée ce développement de ce qu'on appelle les ETF leveragés, c'est-à-dire vous achetez un ETF sur une valeur, mais vous avez deux fois ou trois fois la performance de cette valeur, et ça cause une très forte hausse de la volatilité sur les marchés. En fait, on trouve aujourd'hui le marché coréen est un marché les plus volatiles dans le monde. Donc on a plus de volatilité avec une base d'investisseurs qui est de plus en plus étroite, et puis des marchés qui sont pricés pour la perfection. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des attentes de profit qui sont extrêmement fortes sur les valeurs de semi-conducteurs, et c'est justifié parce qu'on a un très fort boom et donc on a une explosion des profits. Mais le jour où vous avez une toute petite déception, là, vous risquez de voir des punitions très fortes sur ces marchés. Donc, sur votre question, est-ce que il y a une rotation sectorielle, une rotation pays, une rotation marché, je pense qu'il faut la commencer, d'autant que l'on commence à voir le prix du baril qui revient à ses niveaux d'avant-guerre, qu'on commence à voir des stabilisations sur les actifs, notamment indiens. Donc là, on va regarder la devise, regarder les taux en Inde qui avaient été très très perturbés pendant la crise et pendant la guerre au Moyen-Orient, qui aujourd'hui sont en train de se stabiliser. Donc vous allez voir des opportunités d'investissement qui, de petit à petit, de façon très graduelle, sont en train d'apparaître hors Corée, hors Taïwan.
Du côté de la Chine, là aussi, on a un marché qui est très intéressant et qui affiche des performances qui sont d'un côté spectaculaires et de l'autre côté décevantes. D'un côté, vous avez l'indice Chinext qui compte beaucoup de petites et moyennes valeurs, notamment sur le segment technologique, qui gagne plus de 35% depuis le début de l'année. Shenzhen, plus 20%. Et puis de l'autre côté, Shanghai qui est à zéro, year to date. Et puis le Hang Seng qui perd un peu plus de 11%.
Oui, alors vous avez alors d'abord en Chine, en fait, vous avez deux marchés. Vous avez le marché des sociétés chinoises qui sont cotées à Hong Kong et le marché des sociétés chinoises qui sont cotées à Shenzhen ou à Shanghai. Et quand vous regardez un petit peu le détail, notamment dans le secteur de la technologie, vous allez voir sur le marché de Hong Kong un grand nombre de valeurs de e-commerce sur lesquelles la profitabilité est médiocre du fait d'une très très forte concurrence à l'intérieur de la Chine. Et d'autre part, vous allez avoir en Chine continentale, sur des marchés comme le Star 50 par exemple à Shanghai, ou sur les marchés de Shenzhen, des entreprises qui sont beaucoup plus dans le hardware, qui sont beaucoup plus dans la chaîne de valeur d'approvisionnement des semi-conducteurs, sur lequel vous avez de plus en plus, par nécessité, d'autonomie et de non-dépendance des entreprises américaines. Et donc vous avez des nouveaux marchés qui se développent pour ces entreprises qui performent très bien en bourse et qui sont en train de rattraper leur retard par rapport à beaucoup de sociétés américaines. Donc c'est vraiment un marché à deux vitesses. Et je pense que ce qui pourra refaire converger ces marchés, mais c'est pas du tout pour tout de suite, ce sera le moment où la consommation chinoise, qui est très atone aujourd'hui, l'économie chinoise dépend pour beaucoup, beaucoup des exportations. Donc lorsque cette consommation chinoise pourra repartir, ce sera, je pense, le moment où on verra les deux indices boursiers qui pourront converger.
Et comment vous vous placez aujourd'hui, Franck Benzimra, vous êtes en charge de l'allocation pour l'Asie chez Société Générale CIB, sur justement ces indices chinois?
Alors, il faut rester, à mon sens, sur les indices de Chine continentale, notamment sur les indices de technologie de Chine continentale, parce que c'est là où vous avez des croissances de revenus, c'est là où vous avez des croissances de profits, et c'est là où vous avez un environnement concurrentiel qui n'est pas aussi intense que ce que l'on peut voir sur les valeurs offshore. Vous avez un élément également qui est très important dans la technologie et qui impacte la Chine et beaucoup d'autres valeurs, c'est la très très forte hausse du prix des semi-conducteurs, notamment des semi-conducteurs de mémoire vive, qui va avoir un impact plutôt négatif sur les valeurs de consommation électronique, sur lesquelles on a beaucoup également de valeurs chinoises, et on les voit, que ce soit dans la téléphonie, que ce soit dans la consommation électronique d'une façon générale, on a des pressions sur les marges qui sont importantes. Donc nous, on reste sur la technologie de Chine continentale pour le moment.
Merci beaucoup, Franck Benzimra, de nous avoir partagé vos convictions ce matin depuis Hong Kong. Merci. Vous êtes responsable de la stratégie Action en Asie chez Société Générale CIB. 9h15, tout de suite, on va faire un point sur les ETF et des flux encore et toujours records. Ah oui, c'est la dernière séance du mois, du trimestre et du semestre. L'occasion un petit peu de regarder dans le rétroviseur avec Marie-Sophie Pastan, responsable de la gestion indicielle et ETF chez BNP Paribas Asset Management. Bonjour Marie-Sophie Pastan.
Bonjour.
Dans un instant, on va faire un focus sur le segment de la défense. Mais oui, quand même, un petit mot avant pour regarder les flux et les grands enseignements du mois de juin. Qu'est-ce que vous retenez là sur cette classe d'actifs ?
Alors, je retiens que nous sommes toujours dans une année record avec des flux records parce que sur le mois de juin, c'est plus de 35 milliards de collectes nettes. Donc ça, c'est le premier point. Les flux sont toujours stables. C'est toujours une grande majorité actions par rapport aux obligations. Donc 75% des flux vont vers les actions. Donc ça veut dire que les investisseurs sont toujours, on va dire, risk on. En termes de nouveaux signaux, j'ai pas grand chose parce que effectivement les flux dominants se sont toujours vraiment effacés, on va dire, sur l'Europe depuis le mois d'avril, et les flux vont globalement vers la zone monde et vers les US. Peut-être un petit point ESG parce qu'on a eu beaucoup de débats autour de l'ESG, et si on regarde les flux, c'est toujours 20% des flux l'ESG et 20% de parts de marché au niveau des encours. Et peut-être la tendance à noter du moment qui commence à s'inscrire dans le temps, c'est les ETF actifs. Et j'aime bien citer mon collègue Hubert qui me dit toujours que les ETF actifs, c'est 3,5% des encours, 9% des flux et 99% des conversations avec nos clients. Donc on peut dire que c'est quand même une révolution qui est en train de s'installer dans le domaine des ETF.
Avec, on le rappelle, hein, les ETF actifs qui peuvent avoir un biais, hein, par rapport aux indices, que ce soit sur des critères ESG ou que ce soit sur des niveaux de valorisation. Enfin, on peut un petit peu remodeler un indice.
Exactement.
Du côté des classes d'actifs qui nous intéressent en ce moment, il y a le segment défense avec, c'est vrai, une actualité encore toujours très forte au Moyen-Orient ces derniers jours. Les ETF défense qui se sont démocratisés très largement en Europe il y a un an. Quel premier bilan on peut faire aujourd'hui sur ces lancements ?
Alors, on peut dire qu'effectivement, en 2025, c'était une année record pour les ETF défense parce que de nombreux ETF ont été lancés et la collecte a été très importante. La collecte en 2025, c'était 10 milliards d'euros de collecte sur 15 milliards pour les ETF thématiques. Donc, c'est une large partie de la collecte thématique et des performances vraiment très, très bonnes sur 2025, parfois à trois chiffres sur certaines valeurs et, par exemple, sur le segment Europe défense, c'était à plus de 55% en 2025. 2026, c'est une nouvelle histoire parce qu'effectivement, les flux sont moindres. Ils se sont, on va dire, normalisés. On ne voit pas de rachat. Par contre, on est toujours aux alentours de 4 milliards d'euros d'encours sur les ETF défense depuis le début de l'année. Moi, ce que je vois, c'est le type d'investisseur qui est important. C'est à la fois des investisseurs institutionnels qui ont vraiment en cœur de portefeuille une brique défense ou une brique souveraineté, et beaucoup aussi d'investisseurs particuliers qui traitent sur la bourse. On le voit dans le carnet d'ordre des ETF, plein de petits ordres qui sont typiques, on va dire, des investissements de la clientèle particulière. Et l'accessibilité aussi à avoir un produit défense éligible au PEA peut être un vrai plus pour les investisseurs particuliers.
Oui, notamment en France, hein, où on peut bénéficier de ce plan d'épargne action. Comment aujourd'hui on gère le risque, la diversification dans un secteur qui compte assez peu de valeur pour l'instant en Europe ? Alors bon, on aura peut-être KNDS là le mois prochain, mais c'est vrai que le secteur de la défense, c'est beaucoup de grands acteurs, hein, qu'on connaît tous, qui sont dans les grands indices européens, puis après on descend vite en termes de capitalisation boursière.
Oui, alors c'est vrai. Et alors ce que j'aime bien en tous les cas dans la construction de l'indice que nous répliquons via notre ETF, c'est que ça prend effectivement le secteur de la défense européenne. Donc ça c'est la brique, on va dire, majeure, mais ça regarde aussi tout ce qui est défense moderne, parce que si on regarde ce que nous ont appris les conflits récents, c'est que c'est pas une histoire uniquement de défense traditionnelle, mais c'est aussi une histoire de drones. On peut acheter des drones à 50 000 $ et c'est une histoire de traitement de la donnée de façon immédiate pour pouvoir agir rapidement. Donc c'est aussi une histoire de télécommunications, de cybersécurité, mais aussi beaucoup d'infrastructures, de logistique, de conseils. Donc dans l'ETF que nous avons en gestion, dans l'indice, il y a cette partie, on va dire, défense moderne qui s'intègre et qui consiste à prendre des sociétés qui sont sur la chaîne de valeur de la défense. Et pour répondre à votre question sur la diversification, effectivement, il y a les acteurs majeurs qui vont prendre une très grande place en règle générale. Ce que nous avons choisi, nous, c'est d'avoir des règles au niveau de la concentration. Donc, les 5 premières valeurs de l'indice sont capées à 12%. Donc, elles ne peuvent pas dépasser 12% de poids dans l'indice. Voilà, de pondération. Et ensuite, c'est 7% pour les restants. Mais il faut aussi avoir des filtres de liquidité parce que, comme vous le dites, il y a des nouveaux entrants régulièrement ou des petites valeurs qui ont tendance à grossir très vite parce que aujourd'hui les valeurs qui ont, en tous les cas les entreprises qui ont des chaînes de production très agiles, hein, qui délivrent à la fois pour le gouvernement mais aussi pour le domaine civil, ont tendance à vraiment surperformer les valeurs on va dire traditionnelles et celles-ci prennent de plus en plus de poids, mais il faut faire attention à leur liquidité.
Tout à l'heure, en préambule, on parlait des facteurs ESG, ISR, investissement socialement responsable. C'est vrai que pendant un temps, chez certains acteurs notamment, c'est vrai que ce sujet de la défense était tabou, hein, c'était pas vraiment ESG, ISR, etc. Bon, on voit quand même depuis que du chemin a été parcouru.
Oui, alors je suis complètement d'accord avec vous. Si vous m'aviez invité en 2022, je pense que ça aurait été complètement inattendu, voire malvenu de lancer un ETF sur la défense. Cependant, depuis les conflits récents, il y a une évolution, on peut dire, idéologique et aussi une évolution réglementaire autour de la défense. Parce que la perception de la défense a changé. D'un point de vue réglementaire, il y a la Commission européenne qui a assoupli ses règles pour allier, on va dire, défense et produits ESG. Je peux aussi prendre l'exemple de l'Allemagne. Donc, l'équivalent de l'Association française des gestions s'appelle les BVI en Allemagne, qui maintenant autorise un produit ESG à investir dans la défense. Et il y a aussi, par exemple, le label belge qui est en train de revoir ses règles sur l'inclusion de la défense pour être ESG. Donc ça, c'est, on va dire, l'évolution réglementaire et l'évolution philosophique. Je pense que tous, on a conscience aujourd'hui que si on veut défendre notre démocratie, si on a envie de défendre également notre vision de la transition énergétique, de notre transition écologique, ça passe obligatoirement par la défense. On va dire que sans sécurité, sans défense, il n'y a pas de transition.
Merci beaucoup Marie-Sophie Pastan de nous accompagner pour faire un petit point d'étape sur le segment défense qui fonctionne plutôt bien là depuis le début de l'année. On est aux alentours de 10-15% pour les grands indices européens autour de la défense.
Voilà, c'est plutôt mitigé, mais ça dépend. On voit quand même une sélection des investisseurs sur les différentes valeurs.
Je rappelle que vous êtes responsable de la gestion indicielle et ETF chez BNP Paribas Asset Management. 9h23, on va faire un point sur la séance en cours avec Romain Dobry qui nous attend depuis l'atelier des options. C'est le CAC 40 qui grappille 0,4% à 8398 points quand l'Eurostock 50 prend 0,76%. Bonjour Romain Dobry, merci de nous accompagner ce matin. Bon, c'est vrai que c'est une séance importante. Hein. Ce soir, on va arrêter les compteurs sur le mois, le trimestre et le semestre.
Bonjour Étienne. Oui, effectivement, on a vraiment des différences de comportement. Ce qu'on peut dire, c'est que le trimestre aussi, on l'a déjà entamé sur les marchés dérivés depuis 8 jours, 10 jours maintenant. Depuis qu'on a clôturé l'échéance du mois de juin sur les options et les contrats à terme. Et depuis, on n'a pas beaucoup d'initiatives. On parlait, si on regarde sur les indices américains, on a vu et on a constaté de prise de bénéfices, de consolidation sur le secteur et notamment sur l'indice SOX des semi-conducteurs. On a vu un coup d'arrêt la semaine dernière avec une structure qu'on appelle un avalement baissier, la bougie de la semaine dernière ayant englobé la bougie de la semaine précédente. En haut de marché, c'est au moins le signal d'un coup d'arrêt, d'une pause dans la tendance, même si les retournements ne sont pas très violents pour l'instant. On l'a vu sur le Nasdaq, des dégagements assez marqués la semaine dernière. On a beaucoup de volatilité d'ailleurs sur cet indice. Pour l'instant, on le voit après l'ouverture, des mouvements de plus d'1% qui sont en général gommés assez vite, mais il y a des dégagements qui se mettent en place. Alors, ce qui est intéressant du côté des marchés américains, c'est qu'il y a une contrepartie, et ça nous indique que les opérateurs restent constructifs, puisque on voit les capitaux repartir vers d'autres secteurs, et là où ça a été le plus flagrant, c'est le secteur de la santé. On l'a vu très nettement surperformer à Wall Street la semaine dernière. C'est ce qui a permis au Dow Jones de terminer en hausse la semaine dernière avec des titres comme Johnson & Johnson, Merck ou encore United Health qui ont nettement surperformé. Donc sur les marchés américains, on assiste à une rotation sectorielle qui se met en place. En Europe, c'est moins flagrant puisqu'on a des mouvements qui ont été relativement modestes, mais sur l'indice Eurostox, on avait bien progressé. Et puis, depuis le tournant, depuis qu'on a abordé cette nouvelle échéance technique, eh bien, on a une pause. On avait une grosse complaisance qui s'est transférée maintenant à un optimisme assez marqué encore, donc qui laisse et permet d'envisager des mouvements de retracement un petit peu appuyés, pourquoi pas, sur l'Eurostox. Il va falloir surveiller, à mon sens, deux niveaux extrêmement précis. 6202 points en bas, c'est le niveau de support qui, si on l'enfonçait en clôture, validerait une structure de retournement baissière avec en mire des mouvements de retracement de 5 à 6%. Et puis, le débordement à la hausse de 6280 points sur l'indice Eurostox qui permettrait d'invalider ce mouvement baissier et de repartir sur des extensions haussières complémentaires.
On y est là, 6282.
Voilà, il faut le préserver en clôture pour voir si on arrive à former ces extensions sur l'indice Eurostox. Pour l'instant, effectivement, du léger mieux, mais on a un intérêt qui est très en retrait et beaucoup d'arbitrage. On voit, on fait des allers-retours. Alors, il y a du stock picking à faire. On voit des titres qui se reprennent, surtout des valeurs plutôt défensives. On l'a vu en Europe. Oui. On a des titres comme AXA qui surperforme nettement, Accor aussi, ou des titres comme AB InBev qui ont réactivé une dynamique haussière depuis quelques semaines. C'est plus de ce côté-là. On voit que sur les valeurs tech qui avaient le vent en poupe, hein, comme STM, eh bien, on est depuis quelques séances maintenant en pause, en partie haute, mais en pause. On est en train de consolider un peu, de prendre du bénéfice. On n'a pas de structure de retournement, mais il y a moins de moteurs. Il faut dire aussi qu'il n'y a pas de secteur qui ressorte très nettement du lot en Europe, si ce n'est le secteur bancaire toujours. Et encore, on vient d'atteindre des cibles graphiques sur des titres comme la BNP, par exemple. Donc, on a aussi une phase de consolidation, donc pas énormément de momentum à court terme.
BNP, en effet, qui est encore et toujours sur des plus hauts historiques proches des 100 euros. Il nous reste une minute pour parler de Sodexo et Abivax. Abivax qui est en très forte hausse. Hein, ce matin, le titre explose de plus de 23% après ses résultats de phase 3.
Oui, effectivement, Abivax qui réintègre grâce à cette nouvelle le grand trading range dont elle a été sortie par le bas au début du mois de juin. On est calé entre 88 et 120,40 sur le titre. La médiane de cette zone de prix, on vient de la tester, c'est 105. Donc, on revient à l'équilibre sur le niveau médian du titre. On peut dire que le Abivax était calé dans cette zone de prix depuis le mois de décembre dernier. Donc, si on déborde 105, c'est 120,40. Et si on arrive à déborder ce niveau de 120,40, on peut dupliquer la zone de prix actuelle pour aller chercher des extensions en direction de 153. Pour l'instant, c'est retour à la médiane 105. Donc, alerte 88, réactivation haussière 120,40. Il y a de la marge, mais c'est à la mesure de la volatilité sur le titre.
Du côté de Sodexo, peut-être, il faut surveiller les niveaux techniques.
Effectivement, Sodexo. Alors, on a un début de réactivation haussier qui s'est mis en place depuis quelques semaines maintenant. Le titre a préservé ce gros support à 39,82 qui date de 2022. On n'a pas encore formé de structure de retournement haussière, mais ce niveau de 47, qui est un premier niveau d'alerte, la première résistance majeure, c'est 55,05. On voit qu'on reconstruit, on a rebondi un petit peu. Les extensions peuvent mener en direction des 60. Donc, 47, premier niveau d'alerte, 60, première extension un peu significative pour Sodexo qui reconstruit, qui a arrêté de baisser après son long parcours baissier qu'elle avait entamé en novembre 2024.
50-60 à l'instant pour ce titre Sodexo qui est parfaitement stable quand donc Abivax s'envole ce matin de plus de 25% au-delà des 104 euros. Si vous voulez retrouver tous les détails sur cette étude de phase 3, vous pouvez retrouver en replay l'interview tout à l'heure de Marc de Garidel, le directeur général d'Abivax qui était au micro de Laure Closier. C'était à 8h30. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés ce matin. Romain Daubry, je rappelle que vous êtes cofondateur de l'atelier des options. La séance à suivre, bien sûr, dans Tout pour investir avec Antoine Larry-Gaudry à 11h. BFM Bourse, l'ouverture de Wall Street avec Guillaume Sommerer à 15h30. Et puis nous, on se retrouve demain à partir de 9h. Dans un instant, vous retrouvez les experts avec Raphaël Legendre. Très bonne journée.
Good Morning Market sur BFM Business.